BW. Droits et libertés.
Cette semaine, nous reprenons notre échange avec Matthias Mogge. Il préside l'agro-action allemande, la Welthungerhilfe, et il est membre du conseil d'administration de la plateforme Venro, qui réunit des ONG spécialisées dans le développement et la coopération. Nous parlons avec lui notamment de la forme de cette coopération entre Nord et Sud, qui doit devenir un partenariat d'égal à égal. Et nous nous demandons si les humanitaires peuvent et doivent aller partout, au risque de cautionner des régimes ou des groupes opposés. Pouvoir qui tyrannise des civils. Sandrine Blanchard au micro, bonjour à tous.
Je crois que les deux côtés faut changer. Les Européens doivent prendre les partenaires africains d'une façon beaucoup plus sérieuse qu'avant. Mais aussi les Africains, si on peut dire comme ça, doivent aussi voir qu'une continuation, comme d'habitude, ce n'est pas aussi acceptable. Dans beaucoup de pays, comme récemment au Soudan, la population, les citoyens ont montré au gouvernement qu'ils ont ras des bols, il faut changer, nous voulons un gouvernement civil qui respecte les droits des citoyens et qui travaille pour les citoyens et pas pour leur propre poche.
L'Allemagne prône le partenariat d'égal à égal et pourtant, il y a des sanctions qui sont prévues, des conditions en tout cas à l'aide qui sont posées. Est-ce qu'on peut dire, on parle d'égal à égal, mais c'est quand même moi qui dicte la règle du jeu et qui impose des réformes, qui impose une amélioration de ce qu'on appelle la gouvernance, la lutte contre la corruption. Est-ce que ça peut marcher comme ça?
Je crois que ça peut marcher si, par exemple, on travaille en commun avec les objectifs des institutions africaines, comme le plan 2063 de l'Union africaine, où beaucoup de ces principes des droits de l'homme, par exemple, s'inscrivent. Et je crois que si on trouve l'accord entre les objectifs des pays africains avec les objectifs de la politique européenne, ou l'Allemagne, là, on peut mieux travailler ensemble si l'Allemagne, d'une façon unilatérale, impose quelques conditions. Et un autre élément qui est très important pour nous comme organisation humanitaire est qu'il ne faut pas oublier les pays qui ne sont pas encore peut-être prêts ou qui n'ont pas introduit des réformes peut-être nécessaires par des raisons, des conflits ou peut-être des raisons parfois difficiles à comprendre qui sont complètement dehors d'une telle coopération. Et nous disons toujours comme organisation de la société civile qu'il faut continuer d'investir parce que sans investissement et sans la présence aussi de la coopération, il y a une exclusion de ces pays du développement et ça, c'est encore peut-être plus difficile.
Alors on en vient là à un point que je voulais aborder avec vous aussi quand on se renseigne un petit peu sur votre domaine d'action. Il y a deux mots qui reviennent constamment, c'est ambiguïté et dilemme. Et souvent des exemples qui sont cités comme celui de la Corée du Nord, qui rejoint un petit peu ce dont vous parliez à l'instant, ou l'Érythrée en Afrique, par exemple, des États qui sont totalement fermés. Et le problème qui se pose, est-ce qu'on y va quand même avec un devoir d'ingérence, un devoir d'aide humanitaire au nom des droits de l'homme? Ou est-ce qu'on refuse d'y aller parce que sinon on risque d'aider le système à se perpétuer si les gens vont mieux et ils ont moins de chances de voir changer leur paysage politique?
Ce que moi, comme responsable d'une organisation, observe toujours est que la population est très souvent punie par des gouvernements qui sont tellement restrictifs et qui sont tellement autoritaires que la population n'a pas la possibilité de bouger ou de recevoir les services essentiels pour leur vie, comme santé, comme éducation, comme habillement, etc., etc. Et je crois que nous avons une responsabilité comme humanitaire de prendre charge et de s'occuper de cette population, malgré un gouvernement qui est peut-être brutal et qui ne respecte les droits des hommes. Peut-être pour la coopération officielle d'un État comme l'Allemagne, comme l'Union européenne, c'est peut-être un peu différent, parce qu'eux, ils travaillent toujours au niveau gouvernemental. Pour une organisation non gouvernementale comme nous, c'est parfois plus facile. C'est pourquoi nous recevons aussi l'argent de l'Allemagne pour ces projets humanitaires comme au Corée du Nord. Nous sommes en train d'essayer de travailler en Érythrée. On n'a pas encore une autorisation. Mais moi, personnellement, je pense toujours que c'est mieux de rester en contact et de montrer aussi qu'on exerce la solidarité avec ces pays et aussi avec la population, malgré on n'est peut-être pas d'accord avec la façon un pays est gouverné.
Vous avez été en poste à Bamako, je crois, au Mali. Donc vous connaissez aussi bien ce pays, vous connaissez bien la sous-région. Est-ce que ce que vous venez de dire sur la Corée du Nord ou l'Érythrée, ça vaut aussi pour les zones de conflit comme il y en a en ce moment au Mali, c'est-à-dire les zones où ce n'est pas l'État forcément qui commet des exactions, mais des groupes armés, des groupes terroristes, des bandits. Est-ce que là aussi, des humanitaires se doivent d'y aller, quitte à discuter avec ces gens-là? Est-ce qu'on peut parler avec tout le monde?
On ne peut pas comparer la Corée du Nord avec les pays du Sahel. C'est complètement différent. Au Sahel, il y a des groupes militants, des groupes armés qui exercent et qui génèrent des conflits. Dans ces pays, ils sont responsables pour les déplacements de beaucoup de gens. La responsabilité dans ces pays pour nous est surtout de sauver la vie de la population, de soulager, d'améliorer la population déplacée qui souffre le plus sous des conflits. Et troisièmement, d'essayer là où c'est possible de contribuer à une amélioration à long terme de la vie de la population.
Mais pour intervenir à Mopti maintenant, pour intervenir même au pays Dogon, pour intervenir à Tombouctou encore il y a quelques années, il faut aussi parler avec les autres acteurs. Le gouvernement n'est même plus présent là-bas. À Kidal, il n'y a plus de gouverneur. Vous êtes bien obligé de parler aux gens qui font régner la loi ou leur loi là-bas.
Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Il faut parler et on le fait aussi là où c'est possible. Parce que, bon, il y a deux facteurs clés là. Il y a le facteur sécurité de notre personnel propre et aussi le facteur sécurité pour nos partenaires. La situation n'est pas bonne et chaque jour, il y a des humanitaires, il y a la population qui est morte à cause des attaques, des attentats, etc., etc.
Par le passé, il y a eu des difficultés qui ont émergé à cause des répercussions de l'aide humanitaire qui a été prodiguée et sans doute mal préparée, où on a trop peu analysé le contexte, soit les structures sociales, soit le contexte et la nouvelle situation qui allait émerger. Je pense notamment à des problèmes de déplacés ou de réfugiés, de camps qui ont été installés dans lesquels des gens avaient de l'aide. Et les riverains, les résidents qui, eux, n'étaient pas dans le camp, qui étaient habités dans ces régions-là, se sont plaints parce qu'ils se sont dit, mais les réfugiés, eux, ils ont l'électricité, peut-être ils ont de l'eau, ils ont à manger, nous non. Comment est-ce que ça se gère maintenant? Est-ce qu'il y a des changements de paradigme, d'approche pour éviter de reproduire ces erreurs-là ou l'alimentation des conflits du fait même de la présence de l'aide? Comment ça se prépare maintenant?
Bon, principalement, il faut toujours une analyse très détaillée de la situation des acteurs qui sont sur place. Nous essayons de supporter aussi la population qui est déjà là. Et nous sommes toujours en contact avec nos bailleurs de fonds qui sont parfois aussi pas tellement prêts aussi de supporter la population qui est déjà là. Parce que les moyens, il faut le dire clairement, sont aussi très limités.
Et comment on choisit justement les bénéficiaires en général?
On travaille étroitement avec les responsables de la communauté, avec le maire. Normalement, on crée un comité de sélection qui est bien sûr composé par des femmes, par des hommes, par des notables, par des jeunes, pour avoir une bonne représentation. Ils sont eux qui suggèrent normalement, avec une liste, qui sont les personnes qui ont besoin de l'aide. Bien sûr, les professionnels de notre organisation vérifient si la liste est vraiment correcte et si on n'a pas écarté certains gens qui devraient être sur la liste, ou par contre, si on trouve des gens sur la liste qui ne devraient être pas sur la liste.
Et vous, Mathias Mogg, comment est-ce que vous avez choisi la faim, lutter contre la faim et pas lutter contre la peine de mort ou lutter contre je ne sais quoi, une autre cause?
Bon, peut-être parce que je suis, tout d'abord, je suis horticulteur, agriculteur par profession, et j'ai toujours pensé que c'est un peu ma passion, et c'est pourquoi la Weltungerhilfe, cette organisation, était un endroit où je peux vivre mes expériences professionnelles, mais en même temps mes convictions personnelles de changer quelque chose pour le bien dans le monde.
Merci beaucoup, Mathias Mogg.
Merci.
C'est la fin de ce magazine. Merci encore à Mathias Mogg, à Venro et à la Weltungerhilfe pour leur aide. Pour réécouter ou télécharger cette émission et toutes les précédentes, allez voir sur notre site internet www.com/français, rubrique Nos podcasts, droits et libertés. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure.